Eh bien, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. On va prier. Jésus, je te demande de bénir ces paroles que je vais donner ce soir et de permettre à chaque personne d'être touchée dans sa conscience, dans son cœur et de comprendre quels sont les enjeux qui sont là devant nous. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Je voudrais qu'on lise dans Luc chapitre 6, verset 40. C'est un texte que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai souvent parlé. Mais je vais vous en parler encore ce soir, encore un peu différemment. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplissera comme son maître. C'est Jésus qui dit ça. Encore faut-il être un disciple accompli. Être un disciple accompli, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas l'affaire de lever la main dans une réunion, d'être trempé dans l'eau au nom de Jésus, au nom de la Trinité, ou de je ne sais quoi. Ce n'est pas l'affaire de parler en langue, ce n'est pas ça, être accompli. Être un disciple accompli, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Et nous sommes appelés à être maîtres, premièrement, de nous-mêmes. On n'est pas appelés à être les maîtres des autres, mais d'être maîtres de nous-mêmes. Et quand un disciple est accompli, alors il est comme son maître. C'est-à-dire que nous qui voulons être disciples de Jésus-Christ, eh bien, notre but, c'est de devenir comme notre maître. Que faisait Jésus quand il rencontrait quelqu'un qui avait une sclérose en plaques? Il le guérissait. Il n'allait pas le harceler. Je fais juste cette petite parenthèse pour demander à une personne qui sait très bien de qui je parle, tu arrêtes maintenant d'harceler ton frère. Tu es en train de le tuer. C'est très grave ce qu'il a. Et si tu continues comme ça, je vais être obligé d'aller te dénoncer pour harcèlement. Je suis un berger, je suis obligé de garder mon troupeau. Et je le fais avec joie. Ne me force pas à le faire. Arrête d'harceler ton frère. Tu dois être un disciple, toi aussi. Et nous aussi, nous devons être des disciples. Et nous nous efforçons tous à être des disciples. Notre maître, c'est Jésus, et Jésus est Dieu. Et il s'est fait homme. Et qu'est-ce que ça signifie qu'il s'est fait homme? Eh bien, c'est que un vrai maître, eh bien, c'est un homme comme tous les autres hommes. Jésus était homme. Parmi les hommes, il s'est fait homme. Et il avait les mêmes organes que nous, qui lui faisaient éprouver les mêmes besoins et les mêmes désirs. Il était un homme comme nous. Quand il se blessait, je suis sûr que dans l'atelier de Joseph, son père adoptif, il a dû se mettre de temps en temps un coup de marteau sur les doigts, non, vous ne croyez pas, tous les apprentis, hein, ben ça faisait mal, et peut-être même qu'il a saigné, il avait du sang comme nous. Ce qui différencie un maître des autres gens, c'est qu'un maître a une conscience plus vaste. Il a un idéal. Il a un point de vue supérieur, c'est-à-dire qu'il voit d'en haut, il voit différemment les choses. Il a atteint une maîtrise de soi, et cela c'est par le travail de son âme. C'est pas en passant des heures dans la prière, en passant des heures dans le jeûne, en passant des heures dans un séminaire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est un travail sur son âme. Et Jésus a dû travailler sur lui-même pour arriver à cette stature parfaite qu'était la sienne quand il était sur la terre. La Bible nous dit dans Luc 2:52, qu'il a dû croître en sagesse. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où sa sagesse n'était pas au top. Est-ce que vous y avez déjà pensé, hein? Peut-être qu'à cette époque-là, il aurait harcelé. Non, je ne pense pas. Non, quand même pas. Il n'était pas méchant. Et il devait croître en stature, en grâce. Et c'est ainsi aussi en travaillant sur lui-même, avec discipline, qu'il est devenu un véritable conducteur de la lumière divine. Quand je dis un conducteur, c'est comme un fil conducteur, c'est-à-dire qui permet à la puissance divine, à la lumière divine, de passer et d'aller jusqu'au but, c'est-à-dire au cœur des hommes et des femmes de bonne volonté, qui veulent le bien. Bon, cela dit, il faut aussi quand même savoir qu'il y a des maîtres dans les forces du mal, et ils peuvent faire beaucoup de mal. Et Dieu les laisse faire pendant un temps, mais ils finissent toujours par être anéantis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, et moins la possibilité de changer de direction leur est donnée. Parce que ils deviennent de plus en plus aveugles au sujet des choses de Dieu. Et ils se trompent, ils sont trompés, et ils sont dans un brouillard qu'ils prennent pour la vérité. Ils pensent faire le bien en faisant le mal, ils deviennent complètement... C'est fou, c'est fou. C'est pourquoi quand on voit par exemple des sorciers qui se convertissent, et j'en ai vu beaucoup qui se sont convertis en Afrique, ben c'est vraiment un très grand miracle. Parce que c'est plus facile de devenir un sorcier que de devenir un maître en Jésus-Christ. Je vous explique pourquoi. Pour devenir un sorcier, il suffit simplement que vous donniez libre cours à votre nature inférieure. À la bêtise, à la méchanceté, à la mesquinerie. Si vous transgressez les lois de l'amour, si vous transgressez les lois de la confiance, de la gentillesse, si vous aimez que le mal arrive aux gens qui vous ont blessé, si vous souhaitez leur mort, vous êtes en voie de devenir un magicien noir, vous êtes en voie de devenir un sorcier. C'est simple, c'est comme ça. Alors beaucoup s'imaginent que pour devenir un sorcier, il faut avoir un maître diabolique avec des cérémonies. Ça, c'est du cinéma hollywoodien. Qu'il faut avoir un maître diabolique qui vous enseigne les envoûtements, les mots magiques pour envoûter les gens, et là, comment faire des recettes pour mettre des poudres magiques dans les machins, tout ça. Conjuration maléfique. Non. Rien n'est plus faux. Sans instructeur, sans recette, sans rien, on peut devenir un magicien noir si on se laisse guider par sa propre nature inférieure. Maintenant, en réalité, chaque être humain a un maître, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il y en a qui ont dit « Non, moi je n'ai pas de maître. » Ni Dieu ni maître, on disait en 68. Si ce n'est pas un maître visible, eh bien c'est un maître invisible. Notre maître à nous, Jésus, est invisible. On peut le voir de temps en temps, c'est extrêmement rare. Ceux qui le voient tout le temps en général sont dans les hôpitaux psychiatriques. Les anges de Dieu aussi sont invisibles. On peut les voir de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Ceux qui les voient le plus souvent sont aussi dans les hôpitaux psychiatriques. De l'autre côté, dans le côté sombre, les méchants ont aussi des maîtres invisibles qui ne cessent de les conseiller de nuire aux autres. Parce que c'est le but, c'est de nuire, de rendre malade, d'inquiéter, d'angoisser, de pousser au suicide, de rendre malade. Même si j'y crois pas, c'est comme ça. Ces aveugles-là ont un maître dont ils suivent les conseils pernicieux, jour, après nuit. Jésus nous dit, ne vous faites pas appeler maître. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de maître. Mais c'est nous qui ne devons pas nous faire appeler maître. Ni Raphaël, ni Osborne ne m'ont jamais demandé de les appeler maître. S'ils avaient fait ça, j'aurais fui en courant. Mon seul grand maître, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cependant, j'ai pris ce que je pouvais prendre chez ces modèles vivants, chez Raphaël, chez Osborne. Et ce qu'ils m'ont fait voir, ce qu'ils m'ont dit, eh bien je le garde très précieusement comme un bon dépôt et je m'efforce de le mettre en pratique du mieux que je peux avec l'aide du Seigneur. Mais ce n'est pas toujours facile parce que je ne suis moi aussi qu'un homme et je suis en train de progresser. J'espère que vous me donnez le droit de progresser encore. Vous me donnez le droit. Bon, vous êtes conscient que j'ai le droit de progresser, que je peux encore progresser. Ou est-ce que vous pensez que je suis condamné à mort avant la fin de l'été? J'ai enseigné ce qu'ils m'ont enseigné et j'ai fait ce qu'ils m'ont montré de faire. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et j'aurais dû m'arrêter là. Et j'aurais dû faire comme eux, faire ce qu'ils font, dire ce qu'ils disent et ne rien expliquer. j'aurais dû m'arrêter là. Là, j'ai commis une faute. Et Dieu me l'a reproché cette semaine. Et je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça parce qu'il faut... un véritable serviteur de Dieu, il doit être humble. Vous vous souvenez, il y a à peu près 6 ans, j'ai été opéré du cœur, à cœur ouvert. Il y avait un frère dans la communauté qui m'a dit « Non, Michel, il ne faut pas mettre de photos de toi dans un lit d'hôpital avec des perfusions, disant que tu étais opéré du cœur, toi tu pries pour les malades, il y a des miracles, c'est un contre-témoignage, c'est pas un bon témoignage, il ne faut pas dire une chose comme ça. » J'ai dit « Oui, il faut dire des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui souffrent et ils s'imaginent que les serviteurs de Dieu, il ne leur arrive jamais rien du tout et qu'ils ne souffrent pas et qu'il faut leur expliquer que... À nous aussi, le mal nous arrive. L'Éternel nous en délivre toujours d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous arrive. Il faut être humble, il faut se montrer comme des modèles. Et j'ai voulu que cette photo paraisse. Ce frère était fâché, il ne voulait pas. Je n'ai pas tellement l'habitude de me soumettre à des conseils qui ne sont pas spirituels. Donc je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je veux bien écouter les conseils quand ils sont spirituels, mais quand ils ne sont pas spirituels, je n'écoute pas. Il faut être humble. Et c'est pourquoi ce soir, je vais vous expliquer comment Dieu m'a fait un reproche. Parce que ça peut vous être utile un jour. Des gens comme Raphaël, comme Osborne, comme William Branham, sont des gens de très grande valeur. Et ils connaissaient, de leur vivant, puisqu'ils sont tous partis dans la gloire maintenant, des vérités essentielles. Souvenez-vous que le Seigneur, un jour, a reproché à frère Branham d'avoir trop expliqué les choses sacrées. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ça? Il dit que le Seigneur lui a dit, c'est à cause de toi, c'est par ta faute, parce que tu as trop expliqué, tu as trop voulu faire comprendre, c'est à cause de toi que maintenant il y a une foule d'imitateurs de ces choses. Et de l'huile dans les mains, et de ceci. Vous vous rappelez de ça? Vous savez, Paul aux Corinthiens, il disait, soyez mes imitateurs. Il connaissait son public, et c'est à eux qu'il le disait. Alors, bien sûr, ils pouvaient être les imitateurs de Paul. Pour nous, c'est très difficile d'être imitateur de Paul, on ne le voit pas. On peut voir un peu ce qu'il a écrit, tout ça, c'est bien, mais... c'est bien d'avoir un modèle vivant et de pouvoir être imitateur d'une personne qui marche avec Dieu et qui nous inspire. Et Paul connaissait les intentions réelles de son auditoire, des personnes à qui il écrivait cette lettre. C'est pourquoi il leur a dit ça. Ceux qui imitent sans avoir des intentions réelles selon Dieu, ils finissent par être mis en pièces comme les gens qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous comprenez? Ils ont imité, mais c'était pas, ils n'avaient pas de bonnes intentions, ils étaient pas, il y avait quelque chose de faussé. On peut pas, c'est pas suffisant de simplement imiter quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur avait repris le frère Branham. Et moi, il m'a reproché d'avoir donné ce que j'ai reçu, le pouvoir de mettre en lumière des textes tels que 1 Corinthiens 15, 29 ou le mariage éternel. Il m'a fait le reproche de partager ces choses sacrées avec légèreté. Je suis beaucoup extraverti, j'aime partager, j'aime dire. J'ai l'impression que si je comprends quelque chose, tout le monde peut le comprendre. Je suis naïf. Et plusieurs ont pensé que j'étais un de ces imposteurs qui met à profit la naïveté des autres, alors que c'était moi qui étais naïf. C'est vrai qu'il y a tellement d'imposteurs qui ont juste lu 2-3 bouquins et qui se présentent comme des prophètes inspirés. Mes frères et sœurs, ils ne portent sur eux aucun signe que le ciel les a reconnus. Ils se sont déclarés prophètes et ils y croient. Et puis il y a des gens pour les suivre parce que les gens de cette génération aiment plus le mensonge que la vérité. Ce sont des mauvais maîtres et leurs idiots de disciples. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et puis il y en a mais des millions. C'est effrayant, c'est effrayant. Jésus, lui, il était un vrai maître durant sa vie terrestre et il ne disait pas qu'il était maître, il le laissait comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour voir, voit. Un vrai maître, il n'est pas pressé d'être reconnu. Personne n'est reconnu comme maître au ciel, par le ciel, s'il n'a pas les vertus nécessaires. Sagesse, l'amour. Alors, l'amour, on va dire, oui, mais alors toi, Michel, non, attendez, l'amour est parfois correctif. Oh, on a souffert beaucoup d'injustices. Oui, il fallait que vous aviez besoin de correction, vous n'avez pas compris que c'était de l'amour, c'est dommage. Vous manquiez de sagesse. La pureté, la force, le désintéressement. Ah, Michel, tu vas nous dire que tu es désintéressé? Oui, je suis désintéressé. Tellement désintéressé que tout ce qu'on a acquis là, ben, je le laisse. Voilà, je me retire. Je ne voulais personne. Ceux qui ont donné de tout leur cœur, parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils aimaient l'Église. On a mis ensemble, ils n'ont pas donné à moi. Et ensuite, ils ont payé leur loyer, comme tout le monde paye son loyer. Même les païens payent leur loyer, non? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à payer le loyer, à payer la bouffe, à payer... Ils n'avaient même pas besoin de faire leur lessive, c'est ma femme qui nettoyait leurs culottes. On est désintéressés, ils ne le croient peut-être pas, mais moi je sais où j'en suis. Je connais des gens qui se sont autoproclamés maîtres et qui se sont mis à farfouiller dans le monde des esprits. Et ils se sont mis à parler à des esprits mauvais pour les chasser, sans jamais avoir été revêtus pour le faire. Ils ne savent même pas qu'il faut être revêtu pour le faire. On ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit. Personne ne leur a dit. Enfin, moi j'ai dit, hein, mais ils n'ont pas cru. Alors, tôt ou tard, ils s'attirent toutes sortes de ténèbres, il y a toutes sortes de pertes dans leur vie et d'angoisses, parce que les forces auxquelles ils s'adressent disent « Pourquoi cherchez-vous à nous asservir ?» Vous vous rappelez quand Jésus s'est présenté, « Pourquoi es-tu venu avant l'heure ? Tu n'as pas le droit, c'est pas bien. » Ils mentent, mais quand même, ils le font. Pourquoi tu cherches à nous asservir? Pour satisfaire tes caprices? Pourquoi tu veux nous commander? Pourquoi tu bénis cette personne que Dieu a maudit? Parce que Dieu a maudit. Il y a des tas de gens, il y a des tas de familles qui sont maudites. Et eux, ils vont les bénir. Sans aucun discernement. Sans rien du tout. Que des impressions, des intuitions, des machins. Et ces esprits leur disent, vous êtes faibles. Nous ne nous soumettrons pas à vous. Et on va vous donner une bonne leçon. Et voilà. Et ça commence à arriver. Combien de soi-disant remplis du Saint-Esprit n'ont aucune connaissance des lois du monde spirituel? Ils n'ont jamais eu une relation spirituelle profonde, suffisante avec Dieu pour que Dieu soulève un petit peu le coin pour leur montrer qu'est-ce qui se passe dans ce monde, dans ce cloaque de monde, de ténèbres. Bien dommage. Comme je vous ai dit, ils ont lu 2-3 bouquins là-dessus, et puis ils veulent faire les intéressants. Alors, je vous l'ai dit, pour assumer la tâche de guide spirituel, il faut avoir reçu un diplôme. Eh oui, un diplôme. Dans le monde spirituel aussi, on reçoit des diplômes. Les diplômes qui existent dans le plan physique, bon, j'ai un diplôme que T.L. Osborne m'a donné après un examen, etc. Dans la fondation Osborne, j'ai un diplôme. Mais les diplômes qui existent dans le plan physique ont leur correspondant dans le plan spirituel à l'image duquel le plan physique a été créé. C'est comme pour le temple, tout ce qui est spirituel a sa représentation sur la terre, mais a son existence dans le ciel. Quel diplôme ont-ils reçu dans le ciel? Et qui a reconnu que ce diplôme leur avait été accordé dans le ciel pour le leur déléguer sur la terre? Beaucoup de gens s'amusent à être des prophètes. On en a connu un avec Michou qui était terrible. On aurait vraiment dit un prophète, ça n'était qu'un médium. Ça n'était qu'un médium. Il avait en lui un esprit de mort. C'est terrifiant, mais voilà. Quand Maurice Rey a voulu lui dire quelque chose, il l'a maudit. C'est comme ça qu'ils font toujours, ils maudissent. Dieu et les anges qui nous ont envoyés sur la terre nous observent sans cesse. Ils nous mesurent. Et s'ils voient que nous avons fait des efforts, que nous avons réussi à corriger certaines de nos fautes, alors, il nous donne ce diplôme, pas quand on est parfait, mais quand il voit qu'on fait des efforts et qu'on fait des progrès. Où est ce diplôme? Ce n'est pas un bout de papier, hein. Ce n'est pas un bout de papier qu'on peut détruire. C'est un sceau qui s'imprime sur votre visage, sur votre corps, pour montrer que vous avez remporté des victoires sur vous-même. Alors, les humains, les simples mortels, les moldus, ils ne voient pas ce sceau sur vous. Mais tous les esprits de la nature, tous les esprits lumineux, tous les anges et les démons le voient de loin. Ils le voient de loin. Quand Jésus est arrivé, les démons se sont mis en colère. Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens nous déranger? Quand on est avec Nicolas, là-bas en Afrique, et que je commence à prêcher, les démons se mettent à hurler dans la foule. Ils me connaissent, ils savent. Il y a un sceau qui est posé là-dessus, sur nous. Alors, ils sont obligés de nous obéir au nom de Jésus. Je ne prêche pas au nom de Jésus que Carambéry prêche. Je ne prêche pas au nom de Jésus que... Je ne chasse pas les démons au nom de Jésus que Osborne prêche. Non. J'ai appris et j'ai été revêtu. Oui, pour avoir le droit d'exécuter certaines tâches dans le plan spirituel, il faut obtenir ce sceau. Ce sceau, il prouve l'approbation de Dieu et de certains êtres comme les anges ou les démons, les incubes, tous ces êtres maléfiques, et même les esprits de mort maintenant. Et ne croyez pas que c'est facile d'obtenir ce diplôme, ce sceau sur vous. Quand j'ai rencontré Raphaël, j'ai su qu'il n'était pas venu sur la terre tel qu'il était alors. Je suis pas tombé en idolâtrie devant Raphaël. Vous savez, qu'une personne la montre ou qu'une personne la cache, chaque personne a une faiblesse ou même plusieurs faiblesses. Et j'étais très lucide et je me suis rendu compte que Raphaël avait ses faiblesses. Branham avait ses faiblesses. Osborne avait ses faiblesses. Esaïe avait ses faiblesses. Moïse avait ses faiblesses. Aucun n'était parfait. C'était tantôt la peur, tantôt l'orgueil, tantôt l'avarice, tantôt la sensualité. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, quand j'ai vu Raphaël, c'était le premier homme de Dieu que j'ai rencontré, j'étais impressionné, j'ai regardé. La supériorité d'un vrai initié vient de ce que, d'abord, il connaît sa faiblesse. Et il n'essaye pas de faire croire qu'il est mieux qu'il n'est en réalité. J'ai fréquenté beaucoup d'autres pasteurs depuis 1968, et je vois que Rachel, ça te fait rigoler. Tu en as connu pas mal aussi. Comment ils ont l'air sains, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ah oui, ils disent pas des gros mots. Ah, ça, vous les entendrez pas crier. Non, ils sont toujours très impeccables. Merveilleux. Mais c'est un jeu. Ils donnent au public ce que le public attend d'eux. Ils ne sont pas authentiques. Alors, quelqu'un qui est un véritable serviteur de Dieu, un vrai initié, d'abord, il a conscience de ses propres faiblesses et ensuite, il emploie tous les moyens pour en triompher. J'entends beaucoup parler de ce mot, la repentance. Il faut une repentance profonde, profonde. Je vais vous dire, il n'y a rien de plus facile que de se repentir. Il n'y a rien de plus facile que de se repentir. Par contre, c'est très difficile de changer. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Demander pardon. Mon petit-fils fait une bêtise, il me demande pardon. C'est facile. Mais il faut qu'il change. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire changer. C'est lui qui va devoir changer. Et s'il change pas, il se prend des fessées. Enfin, pardon, non, il prend pas de fessées. Monsieur le gendarme, non, il prend pas de fessées. C'est pas vrai. On n'a pas le droit de donner des fessées. C'est illégal. Donc on n'en donne pas, on est soumis aux autorités. Voilà. Mais il y en a d'autres façons de faire pour qu'ils comprennent qu'il faut changer. Les chrétiens modernes ont trop tendance à penser que c'est le Saint-Esprit qui les change. Ah, quelque chose m'est arrivé, je suis rené spirituellement, quelque chose, j'ai été changé. C'est par le Saint-Esprit. Eh bien, ça veut dire, alors, on n'a plus rien à faire pour corriger nos défauts, alors. Ça, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que d'après ce que la Bible dit, faites tous vos efforts pour rajouter ceci à cela à ceci, etc., etc. Et puis, voilà, il faut, n'est-ce pas. Je regardais un petit film l'autre jour où on voit une jeune fille et Dieu est en train de lui parler au sujet de l'orgueil, et puis elle rencontre une de ses copines, puis sa copine lui dit, mais comment ça se fait que tu fréquentes ma Chine? Il dit, ben, elle est gentille, je l'aime bien. Mais t'as vu comment elle est habillée? Oui, et alors? Mais tu ne peux pas t'afficher avec une fille qui s'habille aussi mal, t'as l'air d'une godiche, mais c'est pas possible. On ne peut pas fréquenter cette sorte de personne. Et Dieu lui demande, alors, qu'est-ce que tu en penses? Et elle dit, mais elle est pleine d'orgueil. Et il lui dit, et toi, t'es pleine de jugement. Vous voyez? Ah, faut faire attention. Dieu nous mesure. Alors, elle avait raison de me dire, voilà, elle a de l'orgueil. Et puis, comment faire pour ne pas juger? C'est-à-dire, ne pas condamner la personne qui a de l'orgueil. On a tous des efforts à faire. Ça passe par la compréhension. On apprend les choses et on fait des progrès. Et c'est pour ça qu'on voit tant de chrétiens qui se traînent toute leur vie avec des défauts qu'ils ne peuvent pas vaincre parce qu'ils attendent que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. Et puis, ils courent de réunion en réunion, de réunion de délivrance en réunion de délivrance. Et chaud de l'eau, et puis ça n'arrive jamais. Pour une personne qui veut progresser, il n'y a que le système de l'opposition qui fonctionne. Parce que seule la victoire sur vos faiblesses vous donne les vrais pouvoirs spirituels. Et la victoire sur les faiblesses, eh bien, c'est une opposition. Vous avez une faiblesse et vous vous opposez à ça. Vous opposez à ça. Alors, j'ai trouvé très utile de regarder Raphaël vivre, pas seulement prêcher. J'ai trouvé très utile de regarder Osborne vivre. Il est venu plusieurs fois chez nous, on est allé plusieurs fois chez lui. Voir Vikram Singh vivre, je l'ai vu vivre chez lui, comment il est avec sa femme, comment c'est rangé chez lui, comment c'est propre chez lui, comme dans sa tête et dans son cœur. Il n'y a pas du fourbi qui traîne depuis une semaine sale dans un coin, non. En vivant près de telles personnes, ça m'a permis d'évoluer plus rapidement. Parce que sinon, à quoi vous pensez que ça sert un ministère? À prêcher? Seulement à prêcher. Prêcher. Mais prêcher, c'est rien. Ou disons, c'est presque rien, prêcher. Des millions de Français, des milliers de Français ont entendu Raphaël prêcher. Des millions ont entendu Osborne prêcher. Mais ça ne leur a pas apporté grand-chose. Parce qu'ils n'ont fait qu'écouter les prêches et regarder les miracles. Moi, j'ai observé leur faiblesse avec beaucoup de respect. Et puis, j'ai regardé comment ils arrivaient à maîtriser leurs faiblesses. Quels efforts ils faisaient. Ça m'a beaucoup intéressé. Parfois, ils ne se maîtrisaient pas parfaitement. Moi, j'ai vu Osborne rougir de timidité. Il avait une faiblesse là. Eh bien, tout ça, ça m'encourageait. Pourquoi ? Parce que je les aimais d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que même leur faiblesse, je trouvais ça admirable. Je disais, c'est des hommes de Dieu. Dieu se sert de tels hommes qui ont ces faiblesses-là. Et ça me rassurait aussi. Je me disais, moi aussi, alors, Dieu va se servir de moi, même malgré mes faiblesses. Et puis j'aime aussi quand je lis Branham dans ses biographies, dans les brochures et toutes ces choses-là, et que je l'écoute. Il laisse voir ses faiblesses. Comment il traite ses faiblesses avec plus ou moins de succès. Hein, parce que, vous voyez, il ne pouvait pas blairer Elvis Presley. Hein. Ça, il l'appelait le Ricky. Et il n'y avait pas... Allez, sur 10 prédications, il y en avait bien 3 où il prenait au moins un quart d'heure pour dire du mal d'Elvis Presley. Et à chaque fois, il demandait pardon. Et chaque fois, il recommençait. C'était plus fort que lui. Oh, le frère Branham. Mais j'aime voir qu'un homme de Dieu, et puis il se montrait tel qu'il était, il n'essayait pas de jouer au super saint pour impressionner les gens. Ça m'inspire. Alors, quand j'ai lu que Dieu a fait un reproche à frère Branham, j'ai vraiment frémi la première fois. Et je me suis dit, moi, il ne faut pas que ça m'arrive. Je ne vais pas faire la même erreur. Eh bien, je vous le dis, je suis tombé dans le piège, mais alors de la façon la plus grossière. Et j'ai fait la même erreur. Je croyais tellement dans l'amour de mes frères et sœurs que je me suis montré à nu, à découvert, tel que je suis, avec mes outrances, avec mes défauts. Pas possible d'extraverti. Et puis j'ai tout dit, les plus belles choses comme les plus moches. J'ai été vrai, authentique, comme je suis. J'ai tout expliqué, tout ce que je recevais, je le disais. Je me suis montré tel que je suis. J'ai pas cherché à cacher mes défauts. J'ai pas fait l'hypocrite. J'y arrive pas. Je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien avoir... C'est pour ça, par exemple, je disais tout le temps, vous vous rappelez, un chapeau pointu, puis une longue robe blanche avec une grosse croix. Je crois que ça aide à faire attention. Je crois que l'habit fait un peu le moine, vous savez. Peut-être ça m'aurait aidé à être un petit peu plus hypocrite, peut-être, être un peu moins moi-même. Mais non, je préfère être moi-même. Alors le Seigneur m'a repris, il m'a parlé. Et je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Parce que je voudrais que ça serve de leçon à d'autres vrais serviteurs de Dieu. Donc voilà, c'est par un serviteur de Dieu éprouvé, un serviteur de Dieu équipé, un serviteur de Dieu confirmé par des miracles, des guérisons, des résurrections, un véritable prophète de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit au travers de lui. Et lorsque tu as livré ce que Dieu t'avait donné, ta vision et le pouvoir d'expliquer les choses. Tu as livré ce qui était sacré entre les mains d'un méchant homme qui a méprisé les recommandations de Dieu, qui a violé les promesses extrêmement sacrées qui ont été faites devant Dieu. Vous vous rappelez quand on avait fait ce parchemin qu'on avait tous signé? Il s'est fié à son jugement personnel, il s'est vanté de sagesse. Et voilà la raison pour laquelle tu as perdu pendant un certain temps les faveurs qui t'avaient été accordées. Moi, j'ai perdu pendant un certain temps les faveurs qui m'avaient été accordées. Car tu as souffert que les recommandations de celui qui te dirige, Dieu, soient foulées aux pieds depuis le commencement. Je l'ai souffert pendant 15 ans. Néanmoins, mon œuvre se poursuivra. Car de même que la connaissance d'un sauveur est parvenue au monde par le témoignage des Juifs, de même la connaissance d'un sauveur parviendra à mon peuple. Donc Dieu ne me rejette pas, il m'a simplement puni. Et ça n'a pas été facile. Et ce que je vous dis là ce soir, ça n'est pas facile. Mais je pense que c'est nécessaire pour peut-être plusieurs de ceux qui écoutent. Frères et sœurs, On a tous la prêtrise, je vous l'ai enseigné. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes tous pasteurs, tous prophètes, tous apôtres, tous docteurs, tous évangélistes. Nous sommes prêtres, c'est vrai, mais nous devons apprendre la maîtrise avant tout. Si nous ne le faisons pas, on n'a aucune vraie autorité dans le monde des esprits. On peut avoir une certaine autorité sur des gnagnous, sur des bénis oui-oui, ça on peut, mais pas devant Dieu, pas devant les démons. Alors veillez à ce que vous avez reçu et utilisez ce que vous avez avec sagesse et avec amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te prie que ce message que j'apporte, qui n'est pas du tout à ma gloire, mais tant pis, c'est pas grave, ce que j'apporte là ce soir puisse bénir mes frères et sœurs qui m'écoutent et qui sont animés de bonnes intentions, qui sont de bonne volonté. Pour les autres, eh bien, tu fais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen.